qui nous donne l'occasion de joindre également par téléphone Julien Racicot, lui qui est directeur fondateur de la Fondation Adapte-toi. Julien, merci beaucoup d'être là.
Bonjour, merci de me recevoir.
La Fondation existe depuis combien de temps avant de parler là, des différentes sources de financement pour rendre une résidence accessible? Adapte-toi existe depuis combien de temps?
Adapte-toi existe depuis le mois de juillet 2015. Je vous dirais que les deux premières années, on a travaillé vraiment à bâtir les bases solides de la Fondation pour être en mesure de répondre pleinement là, à la mission de la Fondation. Et depuis, je vous dirais, un an et demi environ, on travaille là, afin d'avancer les sommes nécessaires et surtout d'intervenir auprès des personnes lésées médulaires pour les soutenir dans l'adaptation de leur domicile.
L'idée, c'est quoi? Est-ce qu'on prête de l'argent, disons, avant que le PAD puisse intervenir parce qu'on connaît les délais ou bien on donne des subventions supplémentaires lorsque différentes sources de financement ne couvrent pas toutes les dépenses?
Exactement. Bien, la mission de la Fondation Adapte-toi, c'est vraiment de bonifier l'aide qui est déjà offerte par les différents services. En fait, il n'y en a pas beaucoup, malheureusement, mais par les services gouvernementaux, notamment le programme PAD. Donc, nous, on ne veut pas interférer à cette aide-là qui, ouais, qui est déjà offerte, mais plutôt bonifiée. Donc, on peut intervenir de deux façons. Soit une fois que le programme PAD est intervenu, on vient identifier les besoins qui ne sont pas comblés. Et là, on va déterminer si on vient combler la totalité de ces besoins-là, mm-hmm, ou une partie. Sinon, lorsque les délais sont trop longs pour le programme PAD, on va identifier les besoins qui sont primordiaux, qui doivent être comblés le plus rapidement possible. Mais malgré qu'il soit comblé, le PAD va quand même pouvoir intervenir et donner le maximum. Je m'explique. Advenant que bon, il y a une rampe d'accès qui doit être installée, des ouvre-portes, l'accès à la salle de bain. En faisant nos calculs, on va pouvoir facilement identifier que le coût total des adaptations va dépasser l'aide maximale qui, ouais, peut être offerte par le PAD, qui est
16 000.
Souvent de 16 000. Ouais. Donc là, bien, on va couvrir les adaptations essentielles, qui sont, exemple, l'accès au domicile par la rampe d'accès, par exemple, par l'ouvre-porte. Et par la suite, on va laisser le PAD intervenir, faire les travaux. Et ensuite de ça, si les besoins ne sont toujours pas comblés en totalité, bien là, on va évaluer la possibilité de faire une deuxième intervention afin de couvrir ces besoins-là là, qui ne sont toujours pas comblés.
Parce que le programme d'adaptation à domicile, si je comprends bien, en tout cas dans la définition que j'en ai lue, on dit qu'on adapte les pièces principales et disons, bon, comme on parlait de portes ou de façon à pouvoir jouir de la maison le plus possible. Mais je ne sais pas, moi, j'ai peut-être une chambre d'amis qui n'est peut-être pas considérée comme pièce principale, mais auquel j'ai envie d'être capable de faire le ménage, puis être capable d'aller... Est-ce que la Fondation pourrait justement poursuivre là où le programme arrête?
Oui, tout à fait, parce que nous, l'objectif, c'est de permettre aux gens d'avoir le plus d'autonomie possible, d'être le plus mobile possible dans leur environnement afin de pouvoir vivre pleinement là, au quotidien. Donc, je pourrais vous donner un très bon exemple. On est intervenu auprès d'une famille où la petite fille s'est retrouvée paralysée suite à une tumeur à sa moelle épinière. Et là, une des problématiques qui se pose, c'est que la salle de jeu est au sous-sol. Et là, évidemment, pour le programme PAD, c'est pas, ouais, un besoin essentiel. Mm-hmm. En fait, ça pourrait être... C'est très discutable.
C'est discutable, oui, mais...
essentiel. Je pense que pour un enfant de cet âge-là, ça devient essentiel. Mais bon, on y reviendra. Ouais. Nous, on est en train de faire des démarches pour permettre à cette jeune fille-là d'avoir accès au sous-sol, d'avoir accès à sa salle de jeu. Éventuellement, cette jeune fille-là va vieillir. Mm-hmm. Donc, potentiellement, quand elle est adolescente, elle va vouloir avoir sa chambre au sous-sol.
Elle va avoir amené son chum dans le sous-sol.
Avoir son espace à elle. Ben oui, ouais, c'est ça. Donc, pour nous, c'est important de penser à long terme puis de voir répondre aux besoins qui sont au-delà de ce qui peut être identifié par le PAD comme besoin essentiel.
La semaine passée, on s'est intéressé un petit peu à la même question, mais du côté touristique, on a vu qu'il y avait quand même pas mal de types de subventions, de programmes. Combien y a de sources de financement pour rendre une résidence accessible?
Écoutez, je vous dirais, à ma connaissance, à notre connaissance, à la Fondation Adapte-toi, la seule aide gouvernementale qui existe, c'est celle offerte via le programme PAD, le programme d'adaptation de domicile qui est chapeauté par le SHQ. C'est un programme provincial et, bon, vous connaissez un peu les montants qui sont à faire. Normalement, lorsque c'est des travaux, des adaptations qui sont recommandées par une ergothérapeute, l'aide offerte peut aller jusqu'à 16 000 $. Mm-hmm. Lorsqu'il y a des équipements spéciaux, trois équipements spéciaux ou plutôt des équipements autres.
Adaptés, là, élévateur.
Élévateur, ouais. Lève-personne, mm-hmm. ouvre-porte. Lorsqu'il y en a trois au moins, bien là, il y a une subvention supplémentaire de 7 000 $ qui peut être offerte.
Par la SHQ et encore.
Toujours par la SHQ via le PAD. Et à ce montant-là, selon les revenus du ménage, les revenus familiaux, bien là, pour des personnes à faible revenu, il y a une aide supplémentaire qui peut être offerte jusqu'à 10 000 $. Donc, dans certains cas, dont un jeune homme à qui on est venu en aide il y a quelques mois, la personne peut avoir accès jusqu'à 33 000 $ pour adapter son domicile. Mais dépendamment du niveau d'handicap, je vous dirais que souvent, ce qui arrive, c'est qu'encore là, c'est pas suffisant.
Il y a combien de... Bon, mis à part Victoriaville, est-ce qu'il y a d'autres villes qui peuvent même complémenter financièrement les besoins si le programme ne couvre pas tout?
À ma connaissance, non.
OK. Il n'y a que
Victoriaville. Je n'ai pas entendu parler de ça. Okay. Et puis, dans le fond, je pourrais revenir à votre question précédente. Au-delà du programme PAD, au-delà de l'aide, comme par exemple celle qui est offerte par le Victoriaville, il y a de l'aide qui peut être offerte aussi via des associations ou des organismes de bienfaisance, comme la Fondation Adapte-toi, qui, elle, vient en aide aux personnes qui sont atteintes d'une lésion de la moelle épinière, donc qui sont retrouvées paralysées suite à une lésion de la moelle épinière. Et il y a d'autres organismes également qui peuvent aider ces personnes-là ou d'autres personnes en situation de handicap autre que les hémidulaires.
Oui.
Mais au niveau des programmes municipaux ou gouvernementaux, au-delà du programme PAD ou de l'aide qui est offerte là, par la municipalité de Victoriaville, à ma connaissance, il n'y en a pas beaucoup.
Il faut aussi préciser que si tu hérites d'une blessure importante alors que tu fais partie des forces armées, si tu as un accident de la route, ben là, ce sera la SAAQ. Sinon, ça peut être la CNESST si c'est un accident de travail. Est-ce que ces programmes s'équivalent ou vraiment il y a des personnes handicapées plus riches que d'autres?
Oui, on peut dire ça comme ça. Disons qu'il y en a qui sont plus riches au niveau de l'accès à l'aide offerte. Ça, c'est...
Okay.
C'est évident. Exemple, les victimes d'actes criminels, il y a un regroupement, il y a un fonds d'aide pour ça, un regroupement. Mm-hmm. Et l'aide qui est offerte est vraiment pas la même.
Ouais, ça a été long.
Celle offerte aux personnes accidentées de la route ou aux personnes accidentées du travail. Puis je vous dirais que je suis pas au courant de l'aide qui est offerte là, aux anciens combattants, mm-hmm. mais probablement qu'il y a une certaine disparité aussi.
Ouais.
Entre l'aide qui leur est offerte et les autres programmes qui existent.
Ça fait combien de temps que le programme d'adaptation domiciliaire n'a pas bougé? Le 16 000, il est là depuis combien de temps?
Bon, en tout cas, je vous dirais que depuis mon accident, qui a eu lieu en 1999, à ce moment-là, l'aide qui était offerte était la même
que
ce qui est offerte maintenant.
Voyons donc! OK. Je suis ahuri.
Je ne sais pas depuis quand, mais je peux vous dire que depuis que j'ai eu mon accident, ce qui remonte à presque 20 ans,
mm-hmm.
C'était le même montant qui était offert. Et là, on s'entend que les coûts ont augmenté depuis cette époque-là. Tout a augmenté
ouais.
au niveau des dépenses,
oui,
au niveau des coûts.
Ben oui.
Sauf au niveau de l'aide qui est offerte.
Ouais. Parlons de crédit d'impôt. Est-ce que ça, c'est quand même intéressant? Parce que je crois qu'il y en a tant au provincial qu'au fédéral.
Crédit d'impôt, écoutez, premièrement, tout ce qui est équipement d'adaptation lié à l'accessibilité, la majorité, la majorité de ces équipements-là, on n'a pas de taxes à payer.
OK.
Donc, déjà là, c'est... Ouais.
C'est un 15%,
un point quand même assez qui n'est pas négligeable. Là. Et au niveau des exemptions d'impôts ou des retours d'impôts, je pense que la meilleure personne pour nous conseiller à ce niveau-là, c'est notre comptable.
Ouais, en tout cas, gardez vos factures. Vous laisser aller, Julien. J'ai plus de temps, malheureusement, mais je vous remercie beaucoup, beaucoup. Ça a été éclairant. Et il faut faire des recommandations là, pour que le PAD soit plus généreux. Ça n'a pas de bon sens.
Il faut faire bouger les choses, effectivement.